Bonjour. Dans le cadre de l'émission L'écho de ma commune, animée habituellement par Marie-France Guimard-Roche que je remplace aujourd'hui, je reçois dans les studios de Radio Grand Ciel à Dreux, Madame Béatrice Jaffrenoux et Monsieur Dominique Maillot, respectivement candidate et suppléant aux élections législatives de 2022 dans la deuxième circonscription d'Eure-et-Loir pour représenter le poids, parti ouvrier indépendant et démocratique. Bonjour Madame, bonjour Monsieur, merci d'avoir accepter mon invitation.
Bonjour, merci à vous de nous recevoir.
L'actualité, c'est ce dont on parle aujourd'hui, et encore pendant quelques semaines, il est question d'élection. Madame Jaffrenoux, j'ai cherché sur Internet le programme, mais ce que je n'ai pas trouvé, c'est le sens de votre démarche. Quel est votre message, en dehors de votre fidélité et votre pugnacité ?
Notre message premier, c'est de, vu la situation actuelle sociale, économique et politique, c'est combattre Macron et sa politique et affirmer qu'on ne pourra pas gouverner avec lui et sa politique.
Si je peux préciser,
oui.
Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, dans l'organisation sociale et politique, est-ce qu'il est possible de mettre un terme tout de suite à l'effondrement en cours du système hospitalier, c'est-à-dire de recruter 200 000 hospitaliers, c'est la chiffre officielle que fournissent les organisations syndicales sur la base de l'agglomération des revendications hôpital par hôpital. Est-ce qu'il est possible de recruter 100 000 enseignants ? C'est ce qui est nécessaire pour dédoubler les classes et sauver la génération qui a été totalement précarisée par le Covid depuis 2 ans et qui est aujourd'hui dans un état d'errance totale, que ce soit depuis la maternelle jusqu'à l'université. Tout ça, est-ce qu'il est possible qu'un gouvernement augmente tout de suite de 10% les salaires ? Puisque ça correspond non pas à la perte de pouvoir d'achat, mais simplement au rattrapage de l'inflation et garantisse ensuite l'indexation des salaires sur les prix. On a fait le calcul. Tout ça représente en tout 107 milliards d'euros. Il faudrait 107 milliards d'euros pour augmenter de 10% tous les salaires, pensions et retraites, embaucher les 200 000 hospitaliers dans toutes les catégories et embaucher 100 000 enseignants. Ça ne réglerait pas tout le problème social, mais ça en réglerait une bonne partie. 107 milliards d'euros, c'est beaucoup, mais peu de gens savent, et d'ailleurs tout le monde l'ignore, c'est bizarre, il y a eu un vote unanime de l'Assemblée nationale le 19 mars 2020, unanime, je dis bien, donc les 577 députés ont voté, depuis Madame Le Pen jusqu'à Monsieur Mélenchon, ils ont voté à la demande de Macron 600 milliards d'euros aux banques. 600 milliards d'euros, c'est 2 fois le budget de l'État, 2 fois. Ces 600 milliards ont été donnés à des multinationales qui ont fait quoi ? Qui ont fait 2 choses. Ils ont organisé des plans massifs de licenciements. Renault a touché 7 milliards, il a fait 5500 licenciements et délocalisations. Et ils ont spéculé et ils ont bourré les poches de leurs actionnaires puisque l'ONG Oxfam, qui est pour le PEID, a fait une étude sur la France qui a été rendue publique, je ne sais pas si tu as regardé, mais il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, où il s'étonnait que les dividendes des actionnaires aient augmenté de 89% en un an.
Ça, j'ai vu ça, oui.
Alors que les activités économiques réelles étaient à l'arrêt avec la pandémie. Et ils ont poursuivi leur enquête, et ils confirment totalement ce qu'on dit. L'argent, c'est de l'argent public qui a été déversé par les banques dans les multinationales qui les ont immédiatement reversés sous forme de dividendes aux actionnaires. Donc, est-ce qu'il y a un gouvernement possible qui récupérerait ces 600 milliards, ils existent, et qui les mettrait, et qui en utiliserait une petite partie. On est donc tout à fait pour régler immédiatement 2 questions majeures pour une société, la question de la santé de sa population et la question de l'éducation de ses enfants. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire dans le cadre des institutions de la Ve République. On ne peut pas le faire si on respecte le Conseil constitutionnel, si on respecte M. Macron, à commencer par lui, si on respecte, disons, le rôle de, comment dire, de fantôme de l'Assemblée nationale. Donc il faudrait une Assemblée nationale souveraine qui immédiatement convoque une Assemblée constituante, c'est très facile à faire, et qui réquisitionne ces 600 milliards pour en faire quelque chose d'utile pour la population. Et ça, c'est impossible dans le cadre d'une cohabitation avec Macron. C'est la raison pour laquelle on se présente pour appeler d'une part à rejoindre le Parti ouvrier indépendant démocratique, mais surtout, surtout, à dire aux travailleurs du public, du privé, à ceux qui vivent de leur travail de manière plus générale. Sous toutes les formes, il faut s'organiser pour en finir avec cette politique qui mène le pays dans le mur. Ouais. Quand je dis sous toutes les formes, par la grève, par les manifestations, par les revendications, il faut organiser les organisations syndicales. Et puis on pense aussi qu'il faut organiser un parti ouvrier indépendant, démocratique, parce qu'il n'existe pas.
Mais ce que tu me dis me fait... on se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps. Ce que tu me dis me fait rebondir un petit peu sur le programme que tu viens d'énoncer, qui consisterait à une sixième république avec la suppression du premier ministre pour que le président soit responsable devant le Parlement. C'est un petit peu ce que préconise Jean-Luc Mélenchon. Donc ma question est la suivante, ce que j'avais préparé. Vous êtes de gauche, personne n'en doute. Vous voulez la victoire de la gauche. Pourquoi ne vous êtes-vous pas rallié à la NUPES, la nouvelle union populaire écologique et sociale de Jean-Luc Mélenchon? Toutes les voix de gauche comptent pour une potentielle victoire et répondre un petit peu à ce que tu viens d'énoncer.
Oui, c'est simple. Tous les travailleurs veulent l'unité, c'est évident, c'est vrai à n'importe quel niveau. L'unité est une des conditions de l'efficacité et de la victoire. Ça, c'est clair. Maintenant, l'unité sur quoi? Par exemple, la NUPES, en fait, c'est quoi? C'est une espèce d'accord bilatéraux, plusieurs accords bilatéraux, entre la France insoumise et ses partenaires. Donc, si on prend une question, par exemple, majeure, la nationalisation de l'énergie. Si on veut en finir avec la spéculation sur le gaz et les matières premières, la première mesure à prendre, c'est évidemment la nationalisation, la renationalisation, le retour au monopole public, EDF, GDF.
Et là, ils sont tous à peu près d'accord.
Non. C'est plus compliqué que ça. Si on prend la position de Mélenchon et de la France insoumise, on a la même position. Ils sont pour la nationalisation, le retour au monopole public d'EDF. Mais ils signent un accord qui s'appelle la NUPES, avec, par exemple, le Parti Socialiste et une autre organisation qui n'a strictement rien à voir avec la classe ouvrière qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, dans lequel il est explicitement dit que, pour leur part, ils sont totalement opposés au retour au monopole public d'EDF-GDF. Donc on appelle à voter pour une organisation, pour une nébuleuse, entre guillemets, NUPES, qui, d'un côté, se prononcerait pour la nationalisation et de l'autre, se prononcerait contre. Et on va pas développer, on va passer le réveillon là-dessus, mais c'est valable pour tous les points du programme de la NUPES. Donc, il faut, pour nous, c'est pas possible que les choses ne soient pas claires. La situation est beaucoup trop grave avec toute la guerre qui se profile en plus derrière. L'économie d'armement qui est en pleine expansion, on en parlera peut-être. Et donc, la situation est beaucoup trop grave pour faire des folies comme ça au niveau électoral. Non, il faut un programme clair. Maintenant, c'est aussi clair que là où le PEID ne se présente pas, dans de nombreux endroits, puisqu'on présente 115 candidats, nous appelons les travailleurs à ne pas voter pour les partis de droite ou d'extrême droite, ça paraît clair. Nous appelons les travailleurs à porter leur voix, malgré tous les désaccords qu'on a, sur les partis, je dirais, d'origine ouvrière. On pourrait les citer, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, dans une certaine mesure la France Insoumise, lutte ouvrière même, pourquoi pas. Et d'aucune manière pour les candidats capitalistes avec un faux nez de gauche. Quand je vois un Cédric Villani dans les rangs de la France Insoumise, ça me fait sourire. Si c'était drôle, ça me ferait sourire, mais c'est même pas drôle.
Non, c'est pas drôle.
Quand je vois un Émeric Caron, qui est un fasciste notoire, qui veut retirer le droit de vote aux ouvriers, sous prétexte de donner des droits aux animaux, alors comme les animaux n'ont pas le droit de vote, et qu'il faut mettre les animaux au niveau des hommes, donc il faut supprimer le droit de vote aux ouvriers. J'invente rien, il a écrit un livre là-dessus, mais qui est présenté sous l'étiquette France Insoumise. Bien entendu, aucun travailleur, aucun démocrate ne pourra voter pour les individus pareils.
Oui, ça me semble évident, effectivement. Depuis les dernières municipales de 2020, tout le monde s'est teinté en vert plus ou moins foncé. Puis, avec les régionales, la présidentielle et les législatives, c'est à celui ou celle qui sera le plus vert, en jurant la main sur le cœur qu'il ou qu'elle fera sa priorité du réchauffement climatique, de la transition écologique, de l'indépendance énergétique. Quelle est votre position sur la volonté qu'ont les Français de chercher à vivre sur une planète plus propre, plus respirable?
Je dirais, j'ai l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes. Je vais surprendre beaucoup de monde. Je cite une phrase écrite il y a 1850 par Karl Marx, fondateur du mouvement ouvrier avec beaucoup d'autres, et qui écrivait ceci: le capital détruit les deux seules sources de richesse, la terre et le travailleur. C'est pas nouveau. Pour nous, le combat pour la défense de l'environnement, c'est d'abord le combat pour la défense des intérêts de la classe ouvrière. Parce que c'est elle qui paye le tribut le plus cher à la pollution. Alors, on nous parle beaucoup de transition écologique, faut savoir ce qu'on met derrière. En réalité, c'est un immense marché qui est en train de s'ouvrir, et c'est une guerre sociale annoncée. Il y a eu un rapport, j'ai oublié le nom de la personne qui a fait ce rapport, mais il est très officiel et il date d'il y a 2 mois, je crois, où il était question d'affecter, alors en plus des 600 milliards dont j'ai parlé avant, au moins le double aux entreprises, aux mêmes qui ont touché les 600 milliards l'année dernière, pour, soi-disant, se restructurer pour faire face à cette mutation énergétique dont on nous parle, et qui va se traduire dans un premier temps par des dizaines de milliers de licenciements de travailleurs qui, pour l'instant, par exemple, fabriquent des voitures. Alors la réalité, c'est quoi? Moi, j'ai été chercher sur Internet, c'est très vite fait. Je vais donner un chiffre tout simple. Une voiture électrique, c'est 40% de main-d'œuvre de moins qu'un véhicule thermique, et c'est vendu beaucoup plus cher. Donc c'est un maximum de profit. Quand M. Elon Musk parle d'écologie, il faut entendre dollars, il faut entendre profit. Par ailleurs, pour faire une voiture électrique, il faut des batteries. Pour faire des batteries, il faut du cobalt. Et le cobalt, il est extrait par les enfants de 3 ans au Congo, à la main, pour que le petit bourgeois parisien respire mieux. Alors on respire mieux peut-être dans le 16e arrondissement, mais on a respiré beaucoup moins bien au Congo. Et quant au nickel, qui est le nouvel or blanc de la soi-disant transition énergétique, le prétexte à une nouvelle guerre contre les populations mapuches au Chili. Ce sont des immenses lacs salés qui sont asséchés par les multinationales pour produire ce nickel. C'est les pires déchets toxiques déversés sur des millions d'hectares là-bas, c'est la déforestation. Mais ça, effectivement, on pourra toujours planter des arbres aussi dans le 16e arrondissement. Donc sur la planète, faut quand même le souligner, parce qu'il y a une hypocrisie derrière tout ça qui est invraisemblable. Sur la planète, il y a des millions de travailleurs qui vivent dans des décharges. Des enfants qui se nourrissent dans des décharges.
Oui, on voit des émissions régulièrement.
On voit des émissions régulièrement. Donc la destruction des milieux naturels, la surexploitation des travailleurs et la guerre. Parce que, au nom de la transition écologique, on envoie des chars, des avions au Mali pour défendre les ressources des entreprises françaises, pour défendre les intérêts d'Areva. Et quand ils prennent des bombes sur la tête qui sont bien françaises et qui déciment des villages, où est l'écologie dans tout ça? Donc pour nous, cette transition écologique, ce n'est jamais qu'une nouvelle forme de guerre sociale. Il n'y a que l'émancipation sociale qui pourra garantir. Et le fait que, si l'économie est socialisée, oui, effectivement, sera pris en compte l'environnement naturel de l'homme, parce que c'est l'environnement naturel de l'homme. Et qu'à partir de là, les deux ne sont pas contradictoires. Mais il y a quelque chose qui est insupportable, c'est de dire à des gens qui gagnent 1100 euros par mois, il faut consommer moins.
Oui, ça c'est effectivement... Oui, oui. Que quand quelqu'un, je ne sais pas si ça a été dit, je me semble avoir lu ça dans Le Canard enchaîné, quand quelqu'un qui gagne 15 000 euros explique à quelqu'un qui gagne le SMIC comment il faut faire pour faire des économies et consommer absolument moins, c'est absolument insupportable. Je n'ai pas à prendre position devant ce micro, mais là je le fais quand même. Quand je disais tout à l'heure « plus respirable », ça m'est revenu. Je parlais aussi, non pas forcément de corruption, mais surtout de conflits d'intérêts qu'il y a entre toutes ces choses-là, et tu viens de le faire. Je te remercie. Un autre sujet d'actualité, la mobilité et le transport qui pèsent de plus en plus sur le pouvoir d'achat. Chaque habitant constate actuellement les travaux du rond-point Léo, où on a peine à apprécier l'efficacité promise, d'autant que l'élargissement du dernier tronçon Marville-Vernouillet ne servira qu'à sécuriser une 2x1 voie, sans doute pour justifier la concession de la 154. Depuis longtemps, vous avez une position ferme sur la concession. Est-ce que vous pouvez développer ?
Le Parti ouvrier indépendant démocratique, à l'époque, ça s'appelait pas forcément comme ça. En tout cas, c'était les mêmes militants. En 2011, nous avons présenté des candidats aux élections cantonales dans tous les cantons d'Eure-et-Loire sur la base d'un 4 pages qui avait été confectionné pour alerter les habitants sur une folie qui est cette autoroute privatisée traversant du nord au sud le département et qui allait permettre à Vinci ou un autre, mais apparemment c'est Vinci, de faire des profits absolument considérables sur le dos de la population. D'abord par la construction même de l'autoroute, le sacrifice de terres agricoles, de centaines d'hectares de terres agricoles, des ouvrages d'art totalement inutiles qui rapporteraient une fortune. Alors on parle des ronds-points, on pourrait parler des viaducs qui devraient être mis en place au-dessus de la vallée de la Blaise et puis de la vallée de l'Eure, à côté de Chartres.
Et de l'Avre.
Et de l'Avre, oui. Ensuite par le péage, je veux dire, c'est le retour des barrières d'octroi. Donc on avait On a mené cette bataille dès 2011 pour alerter, d'autres l'ont fait, sur un autre plan. Et on a tout fait converger ensuite, je crois, une bataille qui est très importante dans les années 2000, par les années qui ont suivi, où les organisations syndicales, notamment, ont su s'unir avec des associations, etc., pour aller porter le mot d'ordre de non à la privatisation. Parce qu'en fait, c'est un problème de privatisation des routes. Côté cours, on privatise les routes nationales pour en faire les autoroutes. Côté jardin, on arrache les routes départementales pour les rendre, entre guillemets, à la nature, en fait, à rien du tout. Et les gens sont obligés de faire des détours. Les routes nationales sont déclassifiées en routes départementales, mises à la charge des conseils départementaux, qui ne peuvent pas assumer l'entretien, et ainsi de suite. Je discutais avec un maire... il y a quelques années déjà, il m'expliquait qu'il avait sur une toute petite commune 70 km de route à gérer dans le Perche, ce qui était impossible pour ses finances locales. Donc il y a un processus délibéré de destruction du service public. Ça passe par la destruction de l'hôpital, ça passe par la destruction de l'école, et ça passe aussi par la destruction des routes et leur privatisation pour les secteurs les plus rentables. Donc pour nous, c'est un seul et même combat.
Je voudrais revenir sur un problème, surtout à vous, Madame Jaffronoux, puisque vous êtes hospitalière. Le problème de l'hôpital de Dreux, le problème de l'hôpital de Chartres, vous le connaissez par cœur. C'est votre combat quasi quotidien. Hier encore, vous étiez en train de distribuer des tracts devant l'hôpital. Comment vous voyez l'avenir de l'hôpital de Dreux? Est-ce qu'on va pas prendre un petit peu tous les services importants et prestigieux par Chartres? Par exemple, j'ai une petite expérience de cardiaque, où les urgences cardiaques que j'ai trouvées d'excellente qualité, avec une disposition d'un personnel extrêmement dévoué. J'étais complètement étonné. Bon, je ne suis pas un spécialiste de l'hôpital, j'y vais de temps en temps, mais à chaque fois je suis étonné. Mais est-ce que c'est ça l'hôpital? Pour moi, c'est l'hôpital de Dreux notamment, puisque je ne connais que celui-ci. La qualité des prestations, je la trouve assez exceptionnelle. Alors on m'a dit, oui, mais ça, c'est les urgences cardiologiques, c'est les soins intensifs, c'est pas du tout la même chose. Et est-ce que l'autre chose, justement, les soins habituels, se délitent au profit de, on ne sait pas?
Alors tout d'abord, merci de rendre hommage à ce personnel hospitalier qui est investi tous les jours et aussi bien dans le service de pointe de usine, enfin de soins intensifs cardiologiques, que dans tous les services de l'hôpital, y compris en passant par les EHPAD, les maisons de retraite et les unités de soins de longue durée. Le problème de la situation de l'hôpital de Dreux n'est pas différent de la situation de tous les hôpitaux de France. Depuis des années, l'hôpital public prend des coups, subit des réformes qui amènent à, en général, une fermeture des lits et des postes supprimés et qui font de l'hôpital ce qu'il est devenu aujourd'hui. Récemment, les services des urgences étaient en grève dans toute la France et ils envoient un message aux ARS qui l'ont très bien compris, les agences régionales de santé, qui disent elles-mêmes « on ne passera pas l'été ». Quand vous entendez « on ne passera pas l'été », ça veut dire que dans les hôpitaux publics, il y aura des morts. Et c'est terrible de voir ces ARS, qui sont la branche directe de la représentation du ministère de la Santé, qui osent vous dire, là, depuis le mois d'avril, cette fameuse phrase « on ne passera pas l'été ». Alors, est-ce qu'on est spectateur de ça ou est-ce qu'on prend les mesures immédiates? Nous, comme Parti ouvrier indépendant démocratique, on sait ce qu'on ferait si immédiatement on était au gouvernement. On ouvrirait très largement les écoles de formation. On s'adapterait à tous les besoins. Pendant la période Covid, à l'hôpital de Dreux, nous avons mené une bataille pour l'embauche de 100 femmes de ménage immédiatement sur le terrain, qui permettaient le nettoyage, tous les communs, les ascenseurs, les chambres, tout ce que vous voulez, pour éviter le plus possible la transmission du virus. La direction s'est opposée à ça. Et nous, pourquoi est-ce qu'on avait fixé à 100 emplois d'ASH? 100 emplois d'ASH, une ASH dans un service, elle a beaucoup de fonctions. Mais surtout, elle permet à l'aide-soignante de se dégager de certaines tâches, de faire des binômes avec l'infirmière et d'être au plus près du patient. Embaucher 100 ASH, ça ne demandait pas d'ouvrir des écoles, de faire des diplômes. Ça demandait simplement d'avoir la volonté de recruter 100 personnes, ce qui n'a pas été fait. Je discutais avec une sage-femme hier qui me disait que l'Ordre national des sages-femmes a fait une enquête sur laquelle 45% des maternités ont répondu sur les manques de personnel. À l'heure actuelle, sur ces 45% de réponses, il manque 827 sages-femmes. Que 45%, je précise, des maternités ont répondu. 827 sages-femmes, ça n'est pas le nombre de sages-femmes qui est formé et qui sort enfin du cursus scolaire des sages-femmes. Alors l'hôpital de Dreux, je le défends, j'y ai travaillé pendant 42 ans. C'est un hôpital avec des plateaux techniques qui répondent à tous les besoins, absolument tous les besoins. Le personnel est très investi. Comme POID déjà, nous on mettrait fin au groupement hospitalier de territoire, qui pour l'hôpital, qui est devenu l'hôpital support, peut absorber les spécialités, mais au nom de quoi ? Au nom des déficits, au nom d'il n'y a plus de professionnels sur le marché du travail, au nom d'il n'y a pas de médecins, au nom de toute une politique qui a été mise en place savamment depuis des années.
Oui, à propos de compétences du personnel, mon expérience m'a montré, j'avais en face de moi deux générations d'infirmiers. La génération sortante, celle qui va s'en aller bientôt, et la génération qui vient de rentrer. Il y a eu un petit trou entre ces deux générations. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de discuter avec ce personnel-là, et quand je leur demandais « mais vous êtes contente de vous en aller ?» Et la réponse était pratiquement à chaque fois « monsieur, je ne fais plus le métier que j'ai appris ». Et puis, quant aux nouvelles, la nouvelle génération, elle était satisfaite de son sort, en dehors du salaire naturellement, mais la démarche était extrêmement différente. Autant l'ancienne génération était pleine d'initiatives, pleine d'attention, savait prendre une décision alors que le protocole n'était pas toujours nécessairement à respecter, alors que la jeune génération, si c'est pas dans le protocole, c'est non. Alors est-ce qu'on va être confronté maintenant à un personnel très protocolaire? Qu'il faudra rentrer dans les cases.
Je pense, puisque toutes les politiques qui ont encadré les hôpitaux amènent les professionnels à réfléchir en termes de rentabilité. Donc l'ancienne infirmière, elle se contrefichait de ce qu'elle coûtait, elle s'occupait du patient, elle l'entourait, elle avait une vraie, je ne dis pas que les jeunes n'ont pas d'empathie, mais une vraie empathie, une compréhension, une approche différente. Le métier d'infirmière, c'était près du patient. Maintenant, la nouvelle génération d'infirmières, je pense qu'elles changeront au fil du temps, parce qu'elles peuvent pas, déjà, elles vont s'inspirer, elles de s'imprégner du savoir des anciennes qui transmettent. Je pense qu'effectivement, à cause de la T2A, à cause de la loi HPST, à cause de tout ce qui secoue l'hôpital public aujourd'hui, on les forme à ça.
Oui, c'est dans leur formation. Oui, c'est un petit peu... C'est assez inquiétant, finalement. Mais comme vous dites, je pense, espérons-le, elles vont se former aussi auprès des anciennes qui vont s'en aller.
Alors, pour reprendre ce que disait Dominique tout à l'heure, dans les 600 milliards qui ont été accordés aux banques et aux capitalistes, il est vrai que si on prenait simplement 15 milliards d'euros pour remettre la santé, les hôpitaux publics à flot, suffirait.
15 milliards suffirait.
15 milliards suffirait.
200 000 postes.
Pour 200 000 postes.
Par rapport à d'autres dépenses, effectivement, 15 milliards, c'est pas si énorme que ça. Surtout pour sauver l'hôpital de pour cet été. Et si je pense que quand on vous dit, vous dites plus exactement que ça va sauter cet été, ça peut sauter cet été.
C'est l'ARS qui lance des cris d'alarme. Les présidents des commissions médicales d'établissement partout dans toute la France, les présidents de comités médicaux d'établissement sont pas des gens qui s'expriment politiquement. Mais là, tous tirent le signal d'alarme.
Et tout
on
ça
ne passera pas l'été.
Sans reprise de la pandémie.
Sans reprise dans la pandémie. Mais lorsque vous entendez
sans
cette...
Sans canicule.
Vous voyez qu'à Dreux, par exemple, on mène un combat acharné depuis 2 ans pour maintenir 17 postes dans les maisons de retraite, au Vive et Prieuré. Ouais. Qu'une expertise est venue dire qu'au Prieuré, les patients sont en danger. Que cette expertise, on l'a envoyée à tout le monde. Ça fait plusieurs mois maintenant. Aucune réponse sur le maintien des 17 postes. Aucune réponse. Puisque personne ne veut les financer. Ni le conseil départemental, ni les ARS.
Oui, finalement, dans toutes les branches de l'administration ou des sociétés, quand j'étais actif en société, j'ai beaucoup reproché la non-réponse. On posait une question, quand la base posait une question, on ne répondait pas comme ça. C'était comme une politique. On ne répond pas. On en a terminé. Madame Jaffrenot, Monsieur Maillot, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour répondre à mes questions.
Si je peux ajouter un mot ?
Vas-y.
Permettre d'inviter tous ceux qui nous écoutent ou qui vont nous écouter. Je ne sais pas quand cette émission
passera. C'est la semaine prochaine. De toute façon, la semaine prochaine.
D'accord. On organise une réunion débat à l'Agora de Vernouillet à 20h jeudi prochain. Je suis fâché avec les dates. Je ne sais plus combien on sera.
Jeudi prochain, on sera le 9.
À 20h, on pourra poursuivre cette discussion et les moyens de faire face à la situation, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation nationale.
Le message est dit. Dominique, je t'en remercie. Je vous souhaite une excellente journée, ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci à vous aussi.
Merci.